Terre secrète, une émission qui part à la découverte des lieux intimes qui nous habitent et nous lient au monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission sur Radio Territoria Terre secrète, une émission qui vous propose de partir dans les relations intimes que chaque individu tisse avec son ou ses territoires, les souvenirs de l'enfance, les espaces rêvés, les lieux qui nous attachent, bref, une émission pour les amoureux de leur demeure terrestre. Et pour cette première, je reçois un des plus grands géographes, et ce n'est pas moi qui le dis, vous verrez, un des plus grands géographes contemporains dont le terme de milieu, de terre, de coumène ont été révélés par ce dernier. Cet homme, c'est Augustin Berck, que je remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Augustin.
Bonjour.
Augustin Berck, c'est un vrai défi de vous présenter, tant votre parcours est riche de publications, de récompenses, de titres également, mais néanmoins, je vais tenter de dresser un rapide portrait de votre carrière. Vous êtes né en 1942 à Rabat, au Maroc. Vous avez appris la géographie, le chinois et le japonais à l'Université de Paris dans les années 1960, à l'École des langues orientales et à l'Université d'Oxford en 1963. Vous avez réalisé un premier doctorat en géographie à Paris en 1969 sur les hiérarchies commerciales du département des Landes, puis un autre doctorat en lettres, cette fois, en 1977 à Paris 4, sur les grandes terres de Hokkaido, une étude de géographie culturelle. Vous avez voyagé et vécu au Japon, totalisant plus de 17 années passées sur l'archipel, où vous avez également enseigné le français à Tokyo dans les années 1970. À partir de 1979, vous avez été directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS, où vous avez dirigé un centre de recherche sur le Japon contemporain, tout en continuant vos recherches internationales avec ce pays. Vous avez été lauréat de la Société de géographie en 1991, chevalier de l'Ordre du Mérite la même année et élu membre de l'Academia Europaea, sans parler de nombreux prix reçus au Japon pour vos travaux sur la création culturelle japonaise et vos théories sur le paysage, ce qui vous a valu d'être docteur honoris causa au Japon, au Québec ou encore à Lausanne. Le dernier prix reçu est le prix Cosmos international en 2018, un prix attribué pour le travail de recherche qui atteint l'excellence et qui est reconnu comme contribuant à la compréhension significative des relations entre les organismes vivants et leur milieu environnant. Vous avez énormément publié sur le Japon notamment, sur le paysage également, sur la mésologie, le lien au lieu, sur la ville aussi. Vous êtes aujourd'hui retraité depuis 2011 tout en poursuivant vos travaux d'écriture et de pensée et vous avez publié très récemment, un livre aux éditions Terre Urbaine qui s'appelle « Mésologie urbaine ». Vous êtes donc, et n'ayons pas peur des mots, un grand homme, un éminent géographe qui, à travers toutes les recherches que vous avez pu mener, a permis d'aider à comprendre la notion de milieu, de coumène et les relations que nous entretenons avec le monde. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il me paraissait passionnant de vous inviter pour cette première émission à venir partager avec nous votre relation personnelle et intime à vos territoires. Quels sont vos territoires, Augustin Berck ? C'est tout le sujet que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Et pour commencer, je vous propose de partir dans votre territoire de vie en écoutant d'abord cet extrait de musique que vous avez choisi pour nous en parler.
Thank you.
Nous venons d'entendre un extrait de la musique d'Alexander Borodine dans les steppes de l'Asie centrale. Augustin Berg, pourquoi avoir choisi ce morceau? Qu'est-ce qu'il évoque pour vous?
Dans les steppes de l'Asie centrale, on vous explique qu'il y a un croisement entre une cavalerie russe, et vue de l'Asie orientale, ça vient de l'Occident, et une caravane qui, elle, vient au contraire de l'Orient, et qui se croise là, dans les steppes de l'Asie centrale. Et en somme, pour moi, ça symbolise tout ce qui aura été ma recherche entre l'Orient et l'Occident, entre l'Asie, enfin l'Extrême-Orient, comme on disait autrement, auquel j'appartiens par ma propre descendance.
Et oui, et vous habitez Palaiseau aujourd'hui, n'est-ce pas?
C'est ça, sur les bords de l'Yvette.
Sur les bords de l'Yvette. Et depuis combien de temps vous habitez cette ville?
Ah, Palaiseau, ça fait pas si longtemps, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. J'y ai immigré parce que ma fille aînée, Camille, habite à Villebon, c'est tout près. Et donc on a des petits-enfants à Villebon, et on voulait se rapprocher d'eux.
Oui, donc c'est par choix que vous êtes venu habiter à Palaiseau.
Oui, par choix, néanmoins, il y a toute une histoire. À Chevreuse, qui est un peu en amont sur l'Yvette, mes grands-parents du côté maternel ont habité après la guerre. Et donc, depuis après la guerre, j'allais les voir à Chevreuse.
Oui, donc c'est un territoire que finalement vous connaissiez déjà avant de vous y installer il y a une dizaine d'années.
Tout à fait. Enfin, Palaiseau même, je l'avais peut-être traversé quelques fois, mais je ne m'y étais jamais arrêté. C'est ma fille d'ailleurs qui m'a conseillé d'habiter à Palaiseau. Elle dit, parce que c'est plus joli, il y a plus de choses qu'à Villebon, c'est pas très bien.
Et où est-ce que vous habitiez avant du coup? C'était à Villebon que vous étiez?
On habitait toujours dans la banlieue ouest, à Maurepas cette fois-ci. Parce que Maurepas, c'est sur la ligne de chemin de fer qui me faisait débarquer à Montparnasse. Et Montparnasse, c'est juste à côté de l'école des hautes études en sciences sociales.
Oui.
Voilà.
Oui, donc c'était presque finalement un territoire plus pour un accès facile à votre travail que finalement un vrai choix de vie.
Oui. C'est ça. Maurepas, c'est pour cette raison que je l'ai choisi, parce qu'autrement, il n'y avait pas de lien.
Et aujourd'hui, vous habitez une maison ou un appartement?
Un appartement.
C'est un grand appartement, combien de pièces il fait?
Dis donc.
Ah oui, je vous ai dit, aujourd'hui, ça sera votre géographie intime. Hein.
je demande à mon épouse Francine, elle va me dire le nombre exact. Ça fait 100 mètres carrés, et puis bon, il y a 45 pièces, quelque chose comme ça.
Quelle est la pièce que vous préférez, dans laquelle vous vous sentez le mieux?
Là, c'est celle que vous voyez derrière ma tête.
Alors décrivez-la nous, parce que ceux qui nous écoutent ne la voient pas toujours.
Bon,
à quoi elle ressemble?
C'est à la fois notre salle à manger. À côté, il y a le salon, mais c'est la même grande pièce, avec un petit écart. Et puis, c'est là que je travaille. À côté, j'ai ma table de travail. Et puis derrière moi, et tout autour, il y a mes livres.
Je vois même qu'il y a une affiche avec marqué dessus le milieu.
Ah oui, alors ça, le milieu, c'est le titre d'un colloque qui a eu lieu début 2020 à Limoges. Et on a eu de la chance parce que c'était juste avant que l'on soit confiné.
Ah.
Oui, donc il a eu lieu. C'est un colloque qui était organisé par des philosophes. Pas par des géographes, ni par des botanistes ou autres. Non, c'était des philosophes.
Et donc, c'est quand même, on peut le dire pour nos auditeurs, c'est le milieu, c'est quand même votre mot, hein, n'est-ce pas? C'est finalement aussi, vous avez commencé par ce morceau de musique qui, justement, symbolise le milieu. Et le milieu est quand même, finalement, vos recherches, le domaine de vos recherches de toute une vie, quelque part. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus d'ailleurs, Augustin, notamment sur votre lien à la géographie? Pourquoi la géographie est-elle si importante pour vous?
Alors, la géographie, bon, il y a le fait que dans ma jeunesse, dans mon enfance, suivant mon père qui a eu des postes en divers lieux, je l'ai suivi d'abord au Maroc, en Égypte, un peu au Liban aussi, avant d'être exilé à Paris pour continuer mes études, quand j'étais lycéen. Donc, il y avait cette ouverture au milieu méditerranéen, les deux rives de la Méditerranée, parce qu'on allait de temps en temps quand même en France, la famille étant originaire, côté paternel, originaire des Landes. Donc, de temps à autre, on y passait quelque temps. Donc, ces différences de milieu, parce que vraiment, entre la métropole et ce qui était à l'époque un protectorat français, le Maroc, a fortiori, quand on a passé 2 ans en Égypte, ça, c'est des changements de milieu. Et vous connaissez l'expression « partir, c'est mourir un peu ». Eh bien, quitter chaque fois un milieu, ça faisait vraiment une fracture dans la vie d'un jeune garçon. Et ça a continué par la suite, parce que mon père, qui était orientaliste mais arabisant, finalement, j'avais ça dans le sang. Mais pour ne pas faire la même chose que mon papa, j'ai décidé d'aller un peu plus à l'Est. Comme disaient les Anglais autrefois, dans leur empire, il y avait ce qui était à l'ouest d'Aden et puis à l'est d'Aden. Donc moi, je suis allé à l'est d'Aden.
Et c'est comme ça que vous avez fini par emporter avec vous tous vos milieux et tous vos territoires traversés.
Oui, parce que j'avais la chance... La vie que j'ai menée, ça n'était jamais une fuite comme peut l'être aujourd'hui les émigrés, comme ça peut être le cas. Bon, ça n'était pas le cas. C'était toujours, enfin, je parle de mon âge adulte, à la suite d'un choix personnel. Donc, le plus important de ces choix, ça a été évidemment de partir au Japon. Mais je suis parti au Japon en 69. Au stade où je commençais à préparer ma thèse d'État. Parce que, oui, tout à l'heure, vous avez dit un mot des thèses. La première thèse était une petite thèse, ce qu'on appelait un troisième cycle. Et puis la deuxième, c'était le gros machin qu'on appelait une thèse, thèse d'État, un doctorat S-lettres. Donc la grosse thèse, je l'ai faite sur le Japon.
D'accord, et oui, c'est ça, bien sûr. Et vous avez choisi, pour parler un petit peu de votre territoire habité, vous avez choisi une gravure, l'antre de la femelle obscure. Est-ce que vous pourriez déjà nous la montrer à l'écran, peut-être, si vous l'avez sur papier, ou alors au moins nous la décrire? Et pourquoi avoir choisi ce dessin, surtout, cette gravure?
Oui, je ne peux pas vous la montrer en grand, parce qu'elle est dans une autre... Ah oui, tiens, si. Ah oui, oui.
Ah oui, on l'aperçoit, effectivement. On la devine, en tout cas, les auditeurs pourront aussi essayer d'aller la retrouver sur Internet, elle sera disponible. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette gravure? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous exactement?
Alors, c'est un dessin à l'encre de Chine que j'ai fait entre novembre 69 et le printemps 71. Alors, en novembre 69, j'étais à Tokyo, où je n'étais que depuis 3 mois. Mais c'était au retour d'une excursion que nous avions faite dans les Alpes japonaises. Donc, on voit sur cette gravure, on voit des montagnes qui sont donc, en fait, une vue d'une des montagnes des Alpes japonaises, les monts Hida. Et puis, ce qui est devenu par la suite, dans la petite histoire que j'ai brodée autour, qui est devenu le Kunlun. Le Kunlun, c'est vous connaissez l'immense chaîne qui borde au nord le Tibet, et qui est dans la mythologie chinoise l'origine même du souffle cosmique et vital, le qi, et plein d'autres choses. Donc, le Kunlun, c'est la montagne par excellence, et celle où il y a, entre autres, la reine mère de l'Occident, c'est une sorte de divinité qu'on a rapprochée de déesses plus occidentales comme Ishtar, Astarté. Et c'est la source de la vie, parce que la Chine sur laquelle je voulais faire ma thèse à l'origine, pas sur le Japon, je n'ai pas pu la faire sur ces régions. C'est la région du Xinjiang, dont on entend beaucoup parler ces temps-ci à cause du problème des Ouïghours. Le Xinjiang, je voulais faire ma thèse là-dessus parce que c'était justement là que les routes de la soie conduisaient vers l'Occident. Donc, c'est la porte de l'Asie centrale. C'est déjà l'Asie centrale, d'ailleurs. Et c'est là-dessus que je voulais faire ma thèse parce que c'était justement là que l'Orient et l'Occident se sont rencontrés pour la première fois historiquement. Et ce qui a fait que je n'ai pas pu faire cette thèse-là, c'est quand la révolution culturelle a éclaté, en 1966, j'étais plus ou moins en train de préparer mon départ, et puis donc c'est devenu complètement impossible, parce que cette région a été interdite aux étrangers pendant, on peut dire, une bonne génération, et a fortiori pour un géographe étant pour des gardes rouges, par définition un espion, voilà.
Et oui.
Donc c'est à ce moment-là, c'est à l'automne 67 que, abandonnant le chinois momentanément, je me suis tourné vers le japonais.
D'accord.
Et j'en ai fait 2 ans avant de partir au Japon l'été 69. Donc le dessin en question, c'est d'ailleurs en surface, du moins, c'est mon plus grand dessin. Pendant tout un temps de ma vie, j'ai hésité entre la recherche comme géographe et puis faire du dessin et vivre comme dessinateur.
Ah, c'est intéressant.
Parce que dans la famille, on a cette tradition. Ma mère était peintre, mon grand-père était peintre, voilà. Donc, ça n'était pas impensable, mais finalement, j'ai préféré la géographie.
La géographie est aussi une forme de dessin, d'une certaine façon. On dessine les paysages, vous les avez dessinés peut-être avec les mots davantage qu'avec la plume, mais d'une certaine façon, ça reste aussi...
Oui, vous savez que fondamentalement, la géographie géographait, c'est pas simplement écrire à propos de la Terre, c'est écrire la Terre. Plus exactement, c'est écrire une version humaine de l'étendue terrestre, c'est créer une écoumène.
Eh oui, c'est vrai. Et ça, en ça, c'est un travail d'artiste, n'est-ce pas ? Et pas seulement de chercheur, au fond.
Ah ben, on peut la géographie, on peut la pratiquer de plusieurs manières. Moi, c'est vrai, ça serait plutôt comme artiste ou poète, bien entendu, au petit pied, tout cela. Parce qu'on peut le faire aussi d'une manière très, très quantitative, vous savez qu'il y a
tout à fait, c'est vrai. Aussi cette discipline très statistique que peut être la géographie. Est-ce que vous entretenez un lien particulier avec votre quartier ? Est-ce que vous avez des lieux dans le quartier que vous habitez, où vous aimez vous promener, vous retrouver aussi, d'une certaine façon ?
Oui, je marche tous les jours pas mal, plus d'une heure tous les jours, mais comme lieu privilégié, c'est l'Yvette.
Ah, la rivière. Oui,
c'est notre petite rivière. Quasiment tous les jours, je vais marcher le long de l'Yvette pour aller acheter le journal, par exemple, parce que pour marcher un peu, je vais chercher chez un petit libraire qui est à une demi-heure de marche. Donc, aller-retour, ça fait déjà une heure de marche. Le long de l'Yvette, c'est un plaisir. Enfin, sauf quand il pleut, etc.
C'est très fréquenté. C'est très fréquenté, oui.
C'est pas mal fréquenté, oui. Mais bon, c'est supportable. Sauf en temps de confinement. Alors là, on préfère que ça soit peu fréquenté.
C'est ça.
Et puis, si on continue vers l'amont, la commune voisine, c'est Villebon. Donc, à une heure de marche à peu près, je suis chez ma fille.
Et ben voilà, sans même utiliser les transports en commun ou la voiture, c'est parfait. C'est comme quoi, c'est un voyage déjà.
Oui.
Je vous propose de parler maintenant de votre enfance. Et pour en parler, nous allons écouter d'abord un petit indice. On vient d'entendre Itran, les étoiles de Lala et Ziza, que vous avez choisi de partager avec nous. Itran est un groupe de musiciens du Haut Atlas marocain. C'est là-bas que vous avez grandi, Augustin ?
Oui, mon père, Jacques Berck, a été muté, on peut dire même plutôt limogé, dans cette région en 1947. Et nous y sommes restés jusqu'en 1953. Donc, de mon côté, ça faisait entre 5 ans et 11 ans.
Ah oui.
Donc, c'est les années les plus riches de l'enfance que j'ai passées là. Je vais dire quand même un mot de la raison pour laquelle nous y fûmes, enfin, mon père y fut limogé, c'est que au lendemain de la guerre, quand les mouvements pour l'indépendance commençaient à se développer aussi bien en Algérie qu'au Maroc, il était administrateur territorial du protectorat. On lui avait demandé un rapport sur l'ordre au Maroc. Et dans ce rapport officiel, il a employé un imparfait du subjonctif qui est resté dans l'histoire. Et l'ordre au Maroc serait que nous n'y fussions pas.
Excellent.
En 1946. Il fallait le faire en 1946.
Oui.
Donc, du coup, il a été limogé dans une région qui, jusque-là, était militaire. Donc, avant lui, il y avait un administrateur, mais qui était un officier militaire. Mais pour lui, comme il était contrôleur civil, on a civilisé. Massivisé. Bon, et donc il en a profité pour faire une thèse, une grande thèse qui lui a valu plus tard d'entrer au Collège de France. Et si je peux citer une anecdote, c'est quand j'y suis revenu, nous l'avons quitté en 1953 pour partir en Égypte, j'y suis revenu pour la première fois en 1988, donc pas mal de temps avait passé, et comme c'était la tête de mon enfance. Je photographiais tout, et je photographiais entre autres, j'ai photographié les bureaux où mon père avait travaillé.
Ah, c'est super.
Et alors un gendarme, un morazni, comme on dit, un gendarme, m'a alpagué et m'a traduit séance tenante devant le caïd.
Ah,
parce que le pacha était absent, donc c'était le caïd. Alors, j'ai expliqué pourquoi je faisais ça, qui j'étais, pourquoi je faisais ça. Et alors, il était assis à un bureau qui avait été celui de mon père, et il me montre en face de lui, sur le mur en face, il y avait une petite étagère à livres, et il me dit, regardez, il y a la thèse de votre père.
Ah, c'est super.
Et c'est un livre dont nous servons beaucoup. Il nous permet de connaître ces populations que nous devons administrer.
Comme quoi.
C'est vous dire.
Oui. Un géographe avant l'heure, oui.
Enfin, oui, lui, il était sociologue.
D'accord.
Et orientaliste. Donc moi, j'y suis revenu à 4 reprises, dont une en 2007 avec une collègue berbérologue, et d'ailleurs berbère elle-même, mais kabyle, en 2007 avec des collègues des hautes études, avec l'objectif d'attirer quelques jeunes des sciences sociales à faire une thèse pour voir comment, 60 ans après, ces régions avaient évolué, cette société avait évolué. Mmh. Alors malheureusement, il n'y a pas eu de candidat.
Ah bon ? Ah oui.
Bon. Il n'y a pas eu de candidat. Mais ça nous a permis de nous faire fêter.
C'est déjà ça, oui, un beau souvenir. Ouais. Mmh.
C'est même incroyable, parce que la deuxième fois aussi où j'y suis revenu, c'était en 2005, cette fois-ci annoncé officiellement et accompagné par un collègue géographe d'ailleurs qui s'appelait Nadir Boumaza, qui dirigeait le centre Jacques Berck à Rabat, un centre, comme on dit, la Casa Velázquez, il y a un centre Jacques Berck à Rabat. Et je lui avais dit que je tenais beaucoup à aller visiter l'Alain Aziza, parce que l'Alain Aziza, c'est le cœur spirituel de cette région. Mm-hmm. L'Alain Aziza, ça veut dire, c'est la sainte Aziza. Il n'y a pas tellement de saintes, mais bon, là, dans ce cas, il y a surtout des saints. Mais là, c'est une sainte, et je voulais retourner là-bas parce que du temps où nous y étions, du temps de mon enfance, il y avait annuellement une grande fête avec des sacrifices, des détails pour Dieu. Mm-hmm. Et, bon, ce cœur spirituel, je tenais beaucoup à le revoir. Donc on y est allé, on y est passé, on a été accueillis en fête, et puis le tombeau de la sainte, une salle où il y a son sarcophage. Et dans cette salle, j'ai entendu quelqu'un prononcer Jacques Berck, un des fondateurs de la nation marocaine.
Oh.
C'est vous dire, à propos d'un administrateur colonial. Hein,
oui, mais bon, qui avait osé dire... Oui, c'est bien, c'est très touchant.
Je ne comprenais pas, parce que quand j'étais jeune, je parlais un peu arabe, mais je n'ai jamais vraiment appris. Donc, après 1953, je l'ai peu oublié complètement. Mm-hmm. Donc, c'était mon collègue, Nadir Boumaza, qui traduisait.
Ah, c'est beau.
Qui me l'a traduit.
Ah, c'est très beau. Quel est votre plus grand souvenir d'enfance que vous avez eu dans ce lieu, dans ces lieux ?
Ben c'est l'ensemble. Mm. C'est l'ensemble, mais bon, le plus proche, parce que c'était aussi le plus quotidien, c'était le grand jardin. C'était un immense jardin, vraiment un jardin d'Éden, avec des mandariniers, tout l'hiver il y avait des mandarines, alors quand je revenais de l'école je me goûtais des mandarines, il y avait beaucoup de grands arbres, j'ai grimpé à presque tous ces grands arbres, et comme on fait quand on est un gamin, j'ai gravé mon nom tout en haut.
Vous êtes retourné sur ce lieu-là, dans ce jardin, vous y êtes retourné ?
Oui, nous y sommes retournés avec mon épouse Francine, on y est retourné justement en 2005, accueilli par le Pacha, puisque cette maison qui avait été celle du contrôleur, c'est du Pacha, qui nous a très aimablement invités à dîner, nous a fait visiter toutes les pièces.
Vous avez retrouvé des odeurs, les odeurs que vous connaissiez de votre enfance ?
Alors, bien sûr. Par exemple, sur les minuits, j'ai grimpé dans un pamplemoussier, cueilli un gros pamplemousse. Là, ça sentait bien. Mais sur la route d'Imin Tanout, on s'était arrêté, c'était une autre fois, ça c'était en 88, donc la première fois du retour au Maroc, arrêté entre Casa et Marrakech, dans un endroit plutôt aride, la terre plutôt rouge, et l'odeur et la couleur de la terre, là, ça m'a pris aux tripes.
Ouais.
Ça c'était vraiment... D'ailleurs, je vais vous montrer, c'est concrètement, quand nous sommes retournés à l'Alain Aziza la dernière fois, c'était en 2014, et j'en ai profité pour ramasser des cailloux,
cailloux
de l'Atlas. Alors, je vous montre.
De cette terre rouge.
Il y a un contact. Il y a un contact dans l'arrière-pays d'Imintanout, dans les ça s'appelle les Sexawar, entre le massif ancien, alors c'est des schistes comme
ah,
ça,
oui.
et le Permien.
Magnifique.
Vous voyez,
oui, oui, cette terre rouge.
Rouge.
Oui.
Et on le voit, c'est une limite très nette et resplendissante dans le paysage. Et puis, en arrière, dans le massif ancien, alors il y a des remontées granitiques comme ça.
Voilà. Ouais, effectivement.
Donc ça, c'est des...
Trois roches totalement différentes, oui.
Ça vient directement des Sexawar.
Et voilà, un morceau de territoire en plus dans votre quotidien que vous apportez.
Oui.
Où est-ce que vous aimiez vous cacher quand vous étiez enfant? Il y avait un lieu où vous cachiez quand vous jouiez?
Oh ben, j'étais souvent dans les arbres.
Hein. Oui, c'est ce que vous disiez. Oui. Pourquoi d'ailleurs?
En particulier, il y avait bon, les arbres où je grimpais quelques fois, parce que ce n'était pas toujours facile. Mais il y en avait un où je grimpais quasiment tous les jours. C'était un Sinus terebintifolia qui était juste à côté de la maison. Et celui-là, bon, j'étais quasi quotidiennement dedans.
C'est parce qu'il
était, pas une,
c'était parce
pas
qu'il était, il était proche de la maison ou parce que, de ce point de vue, vous pouviez observer des choses en particulier?
Oh non, ce n'était pas pour observer, c'était simplement pour être dedans.
Pour être seul dans un arbre, quoi.
Oui, parce que nous étions 6 enfants dans la famille, mais j'étais le deuxième. L'aîné, c'était ma sœur, Marcelsa. D'ailleurs, elle n'avait pas les mêmes goûts, donc elle ne grimpait pas tellement aux arbres. Moi, j'étais donc le deuxième, un garçon. Alors, que pouvait faire un garçon dans un grand jardin comme ça? Donc, grimper aux arbres, et puis aussi construire
des cabanes.
Des lieux. Non, pas des cabanes, mais construire des routes, des habitats, où je faisais circuler mes petites autos, les Dinky Toys, comme il y avait à cette époque. Voilà, donc je construisais beaucoup de choses.
C'est bien, avec des choses de la nature trouvées dans le jardin, je présume.
Eh ben, c'était, oui, parce que c'était montueux, ce jardin. Il y avait des pentes, donc ça faisait, je faisais des pistes avec des lacets, qui, tout ça.
C'est super, on aurait envie d'y être hein, et de voir à quoi ça devait ressembler. Pour notre dernière partie d'émission, je vous propose de partir ailleurs. Écoutons. Nous venons d'entendre un extrait de la chanson « Partir ailleurs » de Mister Gang. Augustin Berg, si vous aviez la possibilité de vous téléporter là, maintenant, tout de suite, où aimeriez-vous être?
Eh bien, j'aimerais aller boire un coup ici. Vous arrivez à lire ce qui est écrit? Red Ochre.
Ah, Red Ochre.
Bon, c'est un... Oui, bon... Ça ressemble un peu à du vin. Enfin,
On dirait de la terre, ouais, aussi.
Oui, et ben c'est du sable rouge, du centre rouge de l'Australie.
Waouh.
Où nous sommes allés aussi. Et ça aussi, c'est un grand souvenir. Parce que l'Australie, c'est peut-être, à part les endroits où j'ai passé mon enfance et tout ça, c'est l'endroit qui nous... Je dis nous, c'est ma femme et moi, on a... Tous les deux, Tous les deux, ce qui nous a le plus frappé comme pays, c'est l'Australie.
Pourquoi ça ?
Donc, les paysages et puis le sens qui a été donné par les aborigènes à ce paysage, ce qu'ils y voient, ce qui existe pour eux.
Comment le perçoivent là-bas ?
Eh bien, toute leur mythologie prend sens par des interprétations du relief, des interprétations du paysage, et toute leur ontologie est liée directement à ce paysage. Donc ça nous a fait vraiment sentir, qu'une osmose, c'est une structure commune entre l'être humain et la terre.
Et oui, l'harmonie entre les deux finalement, oui.
Voilà.
Et quel est le souvenir que vous avez vécu en particulier là-bas alors ?
Eh bien, c'est de marcher dans ce sable rouge.
Oui.
Et puis d'avoir fait à pied un jour où bizarrement, parce que c'est assez désertique, mais c'était un jour où il pleuvait. Ça, c'est la deuxième fois que nous y sommes allés. On a fait à pied le tour de ce rocher rouge qu'il y a, qui est au centre. au centre rouge, il y a Uluru. Et ça nous a pris des heures, parce que c'est pas tout petit. Et puis qu'on a fait la peur au ventre, parce qu'il y avait beaucoup d'eau qui s'écoulait. Et on pataugeait là-dedans et on avait peur qu'il y ait des serpents cachés dans cette eau boueuse. Parce que vous savez que sur les 20 espèces les plus venimeuses qui habitent sur cette planète, je crois que 18 sont australiennes.
Effectivement, ça donne moins envie de s'y retrouver tout seul, perdu au milieu. Et est-ce que vous avez fait une rencontre donc malencontreuse ou non, ça s'est bien passé pour finir ?
Pas du tout. Tout s'est très bien passé. Et on a beaucoup apprécié la cuisine, par exemple, de ce red ochre, ocre rouge. Ah tiens, oui, c'est un rapport justement avec... Enfin, ce n'est pas couleur terre de ciel, mais c'est pas très loin.
Oui.
Où on mange de la cuisine... De la cuisine du bush, des cuisines de la brousse.
Et oui, c'est vrai.
Des choses dont on n'a pas idée. Avec quand même un petit regret, c'est qu'on n'a pas eu l'occasion de manger de la fourmi à miel. Ça, c'est le délice entre tous pour les aborigènes.
D'accord. Donc il faudra qu'on essaye un jour ou l'autre. Puis en plus, il y a beaucoup de fourmis, donc ça pourrait nourrir beaucoup de monde. Est-ce qu'en dehors de tous ces territoires, vous êtes déjà tombé en amour pour un territoire en particulier ?
Alors, non, je ne dirais pas tomber en amour pour un territoire, parce que malheureusement, ma vie a été une suite d'attachements et de ruptures avec des territoires. À chaque fois, ça me brisait. Le pire, c'est quand nous avons quitté Imintanout, parce que, tout à l'heure, c'était les années qui comptent le plus dans une enfance, entre 5 et 11 ans.
Voilà, bon.
Par la suite, j'ai quitté, je n'ai cessé de quitter des lieux auxquels je m'étais fait. Et par exemple, celui où j'ai écrit ma thèse, Hokkaido. La dernière fois que nous y sommes retournés, c'était en 2018. Et là aussi, ça m'a fait quelque chose de retrouver.
Qu'est-ce que ça vous a fait exactement ? Quand vous retrouvez un territoire, vous avez l'impression de retrouver une partie de vous-même, du coup ? Que vous avez laissée là-bas ? Oui.
Bien sûr, parce que la thèse sur Hokkaido, quand je l'ai présentée, c'était sous le titre « Les grandes terres de Hokkaido, études de géographie culturelle ». Après ça, je l'ai tiré une version civile qui s'appelait « La rizière et la banquise, colonisation et changement culturel à Hokkaido ». Mais alors, à ce stade-là, je n'avais pas encore ce qui est devenu en somme ma théorie géographique, mm-hmm. que je rapproche de la mésologie. Mais c'est là que j'ai commencé à sentir les questions. Mm. C'est plus tard que j'y ai accolé des concepts en lisant des philosophes. Mais là, je l'ai senti par mes pieds et par ma chair. Et d'ailleurs, quand j'ai dit par mes pieds, mon directeur de thèse, qui s'appelait Jean Delvert, qui lui avait fait sa thèse au Cambodge, Jean Delvert, qui, on peut dire que ce n'était pas parce que je me sentais un disciple de sa propre pensée que je l'avais choisi comme directeur de thèse, mais simplement parce que c'était lui qui faisait le cours de géographie au Langzhou sur le Japon. Bon, je lui avais donc très naturellement demandé d'accepter de diriger ma thèse. Il a laissé dans l'histoire de la géographie un aphorisme que je ne l'ai pas entendu prononcer directement, mais qui m'a été rapporté par un autre géographe qui, lui, le rapportait vraiment comme quelque chose de honteux. C'est à savoir... Un géographe, ça pense avec ses pieds.
Moi, j'adore.
Un géographe, ça pense avec ses pieds. Bon, alors, vous connaissez la formule « bête comme ses pieds ».
Oui.
Ce n'est pas flatteur pour les géographes.
Non, c'est vrai.
Mais en réalité, c'est en réalité très profond.
Tout à fait,
parce
on
que,
est
justement, c'est par nos pieds que nous sommes rattachés à la Terre.
Bien sûr.
Que nous pouvons arpenter la Terre et la sentir pour de bon, chair contre terre. Voilà. Donc, pour moi, ça a pris, au fil des années, ça a pris un sens profond. Parce qu'au début, je n'avais pas trop fait attention.
C'est très beau, d'ailleurs. Et vous avez choisi de nous faire écouter un extrait de la chanson « La Californie » de Julien Clerc. On l'écoute et après, on en parle. Alors, pourquoi avoir choisi cet extrait, Augustin Berck ?
Alors, la Californie, après ma première année au Japon, donc en 69-70, j'étais allé passer l'été en France entre deux jobs. Et j'en avais rapporté deux ou trois 45 tours, dont celui-là. Et à partir de l'automne, habitant à Sapporo, je le passais souvent et ça me faisait rêver. Et la Californie, je n'y avais pas encore mis les pieds, il s'en fallait de quelques décennies, mais figurez-vous que mon fils, Johannes, est allé faire sa thèse là-bas.
C'est
il
drôle.
Est allé faire sa thèse à San Diego, dans un centre de recherche océanographique, puisqu'il était océanographe. Une thèse qui est d'ailleurs un thème un peu surprenant, c'est une étude sur la nébulosité de l'Antarctique et ses rapports avec la circulation de l'air.
Ah, bon. Excellent.
Bon. Donc, il a fait sa thèse là-bas, il y a vécu quelques années, et on est allé le voir une fois, je ne me rappelle plus exactement en quelle année. Enfin, et j'y suis allé deux, trois fois maximum en Californie. Et celle-là, c'était la plus frappante parce que avec mon fils, il est d'un premier mariage, donc je ne dis pas notre fils, mais c'est mon fils. nous sommes allés nous promener dans le désert de Borrego. Et je raconte au début d'un de mes livres un épisode en fin de journée, remontant à la recherche d'une source dans une montagne qui s'appelle San Isidro. Le soleil commençait à baisser, donc on était dans l'ombre. On entend un bruit d'eau. Et il n'y avait pas une goutte d'eau, on était en plein désert. Pas une goutte d'eau, et pourtant ce bruit d'eau, eh ben, qu'est-ce que c'était ? Il y a deux hypothèses, ou bien c'était le vent, parce que le vent commençait à s'élever, il montait de la plaine, il faisait une fournaise là, qui remontait vers la montagne. Alors ça, comme c'était des schistes très, très fins et comme ça, empilés comme ça, ça pouvait être un bruit de flûte dans les schistes. Ou bien ça pouvait être aussi un bruit de rafraîchissement de la roche qui avait été surchauffée toute la journée et qui maintenant à l'ombre se rétractait. Peut-être ce bruit. En tout cas, ça m'a donné le début d'un livre. Que c'est tout de même, ça c'était proprement un mirage sonore. Mirage sonore.
Oui, c'est beau. Comme quoi, la poésie se cache dans le moindre détail. Hein. Alors, oui. Augustin, malheureusement, notre émission touche à sa fin. Et je rappelle pour nos auditeurs votre livre en librairie, Mésologie urbaine aux éditions Terre Urbaine. Et vraiment un grand merci pour ces très belles confidences territoriales que vous nous avez livrées. Et pour terminer notre voyage, je vous propose de finir sur une note musicale composée par Armand Amar autour de la Terre. Merci à tous de votre écoute et à très bientôt sur Radio Territoria.
Secrète. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.